Les universités françaises ont pour mission d'accueillir les étudiants dans toute leur diversité. Pour aider les étudiants présentant un problème lié à un handicap, elles s'organisent pour favoriser leur insertion dans l'université, mais aussi au sortir vers la vie professionnelle. Pour évoquer les dispositifs mis en œuvre, nous avons invité Madame Georgette Dalle, vice-présidente Vie et réussite des étudiants à l'Université Lille 3, membre du comité pilotage handicap national et représentant les six universités du Nord-Pas-de-Calais, Madame Sylvie Vincent, chargée de l'accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap à Lille 1 et Lille 3, et Madame Shafika Tali, responsable du relais handicap de Lille 1. Georgette Dalle, est-ce qu'il y a un contexte national et on va dire une certaine réglementation, sinon une régulation des problématiques liées au handicap, et notamment des étudiants handicapés?
Oui, il y a des obligations au niveau national, tout simplement par la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui fait obligation aux établissements d'enseignement supérieur d'inscrire et d'accompagner les étudiants en situation de handicap. Donc ça, c'est inscrit dans la loi. Donc, ne serait-ce que pour cela, les établissements d'enseignement supérieur en général et les universités en particulier doivent s'emparer de la question du handicap. Et en second temps, on a cette obligation qui est matérialisée au niveau national par une charte qui date de septembre 2007, qui a été signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère du Travail, des Relations sociales et des Solidarités et la conférence des présidents d'université, qui se donne comme objectif d'améliorer la cohérence et la lisibilité du dispositif d'accueil des étudiants en situation de handicap, donc dans chacune des universités, des établissements signataires de cette charte, d'encourager l'implication des responsables politiques universitaires dans ce dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. La charte inscrit également l'abondement des moyens individuels ou collectifs nécessaires à la mise en œuvre de la loi de février 2005. Et fondamentalement, tout cela, évidemment, est en vue de rétablir l'égalité des chances entre les étudiants valides et les étudiants en situation de handicap, avec toujours en sous-texte ou en surtexte, je ne sais pas comment dire les choses, mais renforcer l'autonomie des étudiants en situation de handicap.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et après 2005?
Sans aucun doute, parce que avant que cette loi ne soit votée, les établissements d'enseignement supérieur, les universités en particulier, pouvaient avoir de façon éparse des dispositifs, on va dire, d'accueil des étudiants en situation de handicap, mais des dispositifs qui n'étaient pas forcément coordonnés, qui pouvaient dépendre éventuellement du bon vouloir des uns et des autres, de l'implication des uns et des autres, alors que cette loi, en matérialisant cette obligation, a créé un dynamisme, à tel point qu'on s'aperçoit qu'au niveau national toujours, pour autant que les chiffres puissent vouloir dire quelque chose en matière de handicap, les chiffres font apparaître une montée en puissance d'accueil des étudiants en situation de handicap, puisqu'en 2009-2010, était répertorié 9 640 étudiants en situation de handicap pour les établissements relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est-à-dire en dehors des BTS et des classes préparatoires aux grandes écoles qui, elles, dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Donc là, on sectorise les ministères. Donc on va le dire rapidement. Donc à peu près 10 000 étudiants en situation de handicap dans les universités, pour le dire un petit peu rapidement. Prudence avec les chiffres simplement parce que, évidemment, il s'agit des étudiants en situation de handicap qui ont éprouvé le besoin de se faire connaître des services en charge de l'accueil des étudiants en situation de handicap dans les universités. Parce que fort heureusement, il n'existe pas d'obligation de déclaration de situation de handicap ni de handicap. Voilà, donc peut-être 10 000, mais peut-être que dans nos universités, nous avons 20 000, 30 000 étudiants en situation de handicap.
Alors, Sylvie Vincent, est-ce que vous avez concrètement vu des changements, des modifications profondes, à la fois des conditions de ces personnes handicapées, mais aussi de la relation à l'autre?
Donc je vois les étudiants, surtout aussi pour les informer sur ce qu'ils doivent faire comme démarche par rapport au monde du travail, par rapport à leur handicap, les aider à faire un CV, une lettre de motivation, leur expliquer comment on fait ces démarches, s'il faut parler du handicap, quand il faut en parler. Je vois aussi les entreprises privées et publiques pour voir s'ils ont un chargé de mission handicap pour le recrutement et de voir un peu si on peut mettre les demandes des étudiants en adéquation avec les demandes des entreprises. La loi a fait aussi, cette loi du 11 février 2005, a fait aussi que l'obligation des 6% est encore plus forte qu'avant au niveau des entreprises. Donc elles sont en demande énormément, et surtout de personnes, des travailleurs handicapés diplômés. Et elles n'ont pas du tout cette visibilité-là, donc elles sont vraiment en demande en ce moment au niveau de ce public. Après, faut mettre toute la mise en relation et faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Mais forcément, ça demande plus de délais par rapport à un étudiant lambda. C'est déjà compliqué de trouver un stage, mais en situation de handicap, ça demande encore un peu plus de temps, de préparation pour que ce soit effectif. Les 6%, ils existent depuis longtemps, alors depuis la loi de 75. Mais alors, pour la fonction publique, par exemple, ils avaient les 6%, mais ils n'étaient pas assujettis à la contribution. Par exemple, depuis 2005, ils sont aussi assujettis. Et à savoir que jusqu'à 2010, cette contribution a énormément augmenté. On va dire, pour une entreprise moyenne avec un nombre de salariés moyen, c'est 500 fois le taux horaire du SMIC par unité non répondue. Donc ça commence à faire une somme qui devient non négligeable, donc les entreprises qui ne faisaient pas de démarches commencent à faire des démarches. On a encore des entreprises à taux zéro, hein, mais ça commence à être dissuasif.
Donc on est dans une situation où la difficulté d'une manière générale pour travailler, pour accéder à l'emploi est quand même majeure en ce moment. Est-ce que vous jugez encore néanmoins que ces personnes handicapées sont victimes de discrimination ?
Oui, il suffit de regarder les taux, hein. Oui, effectivement, mais après il y a aussi l'entreprise, même si elle a envie, il y a aussi une méconnaissance, il faut former les entreprises, leur expliquer ce que c'est qu'une situation de handicap. C'est pas que des personnes en fauteuil, c'est pas que des personnes non-voyantes. Il y a énormément d'handicaps invisibles, il y a toutes les maladies chroniques et invalidantes, il y a la surdité, il y a les troubles du langage, enfin c'est très très large. Tout le handicap psychique et cognitif, qui s'est aussi rajouté avec la loi du 11 février 2005. Donc il y a aussi d'abord une information à donner. Souvent ils estiment que c'est beaucoup de choses, je dirais près de 80% des gens, ça ne se voit pas, c'est du invisible et il n'y aura pas forcément des aménagements à mettre en place. Pas pour tous. Et ça, il y a aussi des méconnaissances. Il y a aussi une grosse méconnaissance du matériel adapté qui a énormément évolué et qui permet d'être un étudiant, d'être autonome. Quel que soit son type de handicap, ça ne sont pas forcément au courant ou formés. Il y a aussi beaucoup d'informations à faire. Mmh.
Est-ce que vous jugez que les progrès scientifiques et technologiques permettent une vie de plus en plus possible pour des personnes handicapées, notamment pour les personnes qui travaillent ?
Le fait de rendre les lieux accessibles, de mettre des lois en place, par exemple, on pense souvent à aménagement pour le public, mais il y a aussi pour les futurs salariés. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui, avant, n'était pas forcément pensé. Plus les avancées technologiques, je pense que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il reste des fois les problèmes des mi-temps qui peuvent poser des soucis au niveau des entreprises qui sont pas forcément habituées à embaucher des personnes à mi-temps. Mais je pense que c'est possible, oui.
Ça dépend de quoi ? Du DRH ou ça dépend de la volonté de l'établissement d'une manière générale, de l'esprit aussi qui anime peut-être une ambiance de travail ?
Je dirais que c'est toute l'entreprise qui doit être formée, qu'elle soit publique ou privée, parce qu'il y a bien sûr toujours des volontés politiques. Après, il y a la mise en place avec la DRH, mais il y a aussi les équipes qui vont accueillir, et tout le monde doit être formé. C'est pas l'affaire d'un, c'est vraiment complètement transversal. Tout le monde doit être formé, doit être prête, et on doit accompagner les gens, quels qu'ils soient, à pouvoir bien accueillir un futur collègue.
Au-delà de la formation, est-ce que vous jugez que les personnes actuellement font cet effort de solidarité aussi d'une façon plus spontanée ou moins spontanée qu'auparavant ?
Il y a toujours la part individuelle de la personne. Donc je sais pas, il y a déjà celle du futur salarié et il y a celle de l'équipe qui va l'accueillir. Je pense que quand on met des bonnes volontés des deux côtés, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que ça, pour les gens, ce soit une surcharge en plus. Il faut que ce soit vraiment accueilli comme un membre à part entière et que toutes les adaptations sont mises en place pour qu'il soit autonome sur son poste. ça enlève un des freins des collègues qui se disent on va devoir en faire plus. Ben non, pas forcément. S'il a eu ses diplômes, c'est qu'il est compétent. Si on met les choses en place, il peut faire sa part comme tout le monde.
Shafika Tali, donc oui. Vous êtes responsable du relais handicap de l'ILA. Vous suivez des étudiants, vous les suivez dès leur admission, vous voyez dès le départ des personnes qui présentent leurs problématiques et qui vous demandent de les accompagner.
Alors, sur l'université de l'ILA, on a trois cas de figure. On a l'étudiant qui se présente spontanément pour se recenser et se déclarer et présenter ses difficultés et son handicap. Généralement, on est sur des handicaps sensoriels importants. On a l'étudiant qui va se manifester dès le lycée, donc dès l'année de terminale, pour préparer son entrée à l'université. Et on a l'étudiant qui vient via le service de médecine préventive, hein, qui est passé devant un médecin, qui a fait le lien avec le relais handicap. Donc on accueille ces étudiants, on fait un entretien d'accueil où on va pouvoir évaluer les besoins et mettre en place les différents aménagements et dispositions possibles pour que son cursus se passe au mieux.
Est-ce que vous voyez une évolution positive? Comment vous la constatez? Depuis combien de temps vous suivez ces problématiques?
Alors, moi, je suis arrivée en 2006, donc ça fait presque 5 ans aujourd'hui que je travaille au sein du relais handicap. Et effectivement, on constate une évolution claire, notamment en termes de chiffres. Hein. On a de plus en plus d'étudiants qui sont recensés par le relais handicap. Mais on constate aussi une évolution par rapport à la communauté universitaire, c'est-à-dire les différentes composantes, les responsables de formation qui commencent à nous connaître et qui commencent à travailler avec nous, qui ont le réflexe de nous signaler un étudiant dans leur formation qui présente des difficultés, qui est en situation de handicap visible ou pas. Donc souvent, quand il y a des absences liées à des raisons médicales, le secrétariat pédagogique peut se tourner vers nous et prendre contact avec nous pour qu'on puisse mettre en place des aménagements. Oui, il y a une nette, une avancée, une évolution positive dans le travail et l'accompagnement envers ce public.
Est-ce que cette évolution positive se traduit également positivement sur les résultats des étudiants handicapés?
Oui, certes, oui, certainement, effectivement, aujourd'hui, on leur facilite l'intégration, le suivi, on arrive à faire en sorte que de mettre en corrélation l'emploi du temps médical, bien souvent, et l'emploi du temps pédagogique. Donc forcément, il y a des aménagements d'emploi du temps qui sont effectués, et donc l'étudiant, même si le cursus est un peu plus long, il concrétise quand même, ils réussissent, ils avancent, et ils parviennent à concrétiser leur projet professionnel.
Bonjour Jadal, on voit bien qu'il y a une chaîne logique, que chaque maillon est important et que seule la réussite dans tous ces paramètres peut amener une solution.
Réellement, enfin, je crois que s'il y a quelque chose de caractéristique à la problématique du handicap, c'est la nécessité du maillage. Je crois que la chose la plus délétère en matière de handicap serait de se dire il y a une structure dédiée au handicap et je délègue totalement à cette structure le soin de s'occuper, pour le dire un peu rapidement, des étudiants en situation de handicap. Et ce que font en général les relais handicap, enfin la connaissance que je peux en avoir au niveau un petit peu général en France et particulier sur la région, c'est vraiment ce maillage, le fait d'impliquer les responsables de formation, impliquer les équipes administratives qui sont aussi des relais et des leviers forts évidemment dans la mise en œuvre de cette politique, également tout ce qui relève de la formation des personnels, c'est fondamental. Chacun d'entre nous travaille sur des représentations sur le handicap. On a cette image et ce logo de la personne en fauteuil. Sylvie Vincent disait que non, on est étudiant en situation de handicap, ce ne sont pas que des personnes en fauteuil. Au niveau national, on est à peu près à un quart, hein, des étudiants en situation de handicap sont des personnes qui présentent un handicap moteur. Mais donc les trois quarts sont d'autres types de handicap. Et donc former les personnels, les mettre eux-mêmes en situation de handicap, former, sensibiliser les étudiants. Les étudiants ont aussi un rôle fondamental dans cette affaire-là, tout simplement parce que ce sont, on espère, les employeurs de demain. en tant que futur cadre, en tant que future profession intermédiaire, ce seront soit les collègues de futures personnes en situation de handicap, soit les employeurs de personnes en situation de handicap. Et relativement à l'obligation d'emploi de 6% dans la fonction publique et dans le secteur privé pour toutes les entreprises de plus de 20 salariés, hein, dont il s'est agi tout à l'heure, je crois que non seulement l'université doit répondre à cette obligation d'une certaine façon, mais a aussi un rôle majeur du point de vue de la société de former des étudiants en situation de handicap de telle sorte qu'ils deviennent banals de rencontrer à la banque, si tant est que la banque soit le summum de la réussite, je n'en sais rien, je laisse juger qui veut, à la banque disais-je, comme enseignant, comme responsable de tel ou tel service, rencontrer quelqu'un qui est en situation de handicap fait que ça devient banal. Dès lors, le regard, on peut l'espérer, changera sur cette question du handicap. Or, ce sont les universités qui forment ces futurs cadres. Donc on a vraiment un rôle là de société auquel, enfin, je crois fondamentalement, à assumer, et je crois que les universités assument de plus en plus.
Voilà, donc il y a une marge de progrès que l'université devrait accompagner. Qu'est-ce qui manquerait encore pour que ça aille plus vite, plus loin?
Alors, il y a le blocage peut-être que certains étudiants en situation de handicap se mettent eux-mêmes sur leur capacité à poursuivre des études, sur leur employabilité éventuelle, parce qu'eux-mêmes sont victimes de représentations et on le comprend bien. Et relativement à cette problématique-là, au niveau là aussi national, il y a une nouveauté cette année qui a été la création de contrats doctoraux, donc pour faciliter les études pour des doctorants, hein, comme leur nom l'indique. Donc là, ont été créés cette année 7 contrats doctoraux réservés à des étudiants en situation de handicap. Le ministère, donc ça c'est sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, n'était pas certain d'avoir 7 candidatures. Il y a plus de 50 candidatures à ces contrats doctoraux qui ont été déposés. Donc là aussi, ça veut dire, oui, on peut être en situation de handicap et poursuivre des études, pas simplement en licence, pas simplement en master, mais également en doctorat, avec une visée donc d'études longues, très longues. Et pas simplement au niveau licence, parce que c'est aussi quelque chose qui a été constaté dans les chiffres. Je crois qu'on le constate au niveau national, et chaque université le constate dans sa propre université. On a un effet d'entonnoir avec en général beaucoup d'étudiants en situation de handicap, autour de 70% au cursus licence. Ça rétrécit un petit peu au niveau master et on a du compte-gouttes au niveau doctorat. Actuellement, c'est la situation. Je crois, là je le fais de mémoire, je ne garantis pas le chiffre à l'unité, mais je crois qu'au niveau national, l'année dernière était identifié, connu on va dire, 40 étudiants en situation de handicap inscrits en doctorat. Ce qui est vraiment très peu, trop peu. Il faut vraiment la créer et mener une politique incitative. Là aussi, cette politique incitative peut apparaître comme de la discrimination peut-être positive dans un premier temps, mais en effet d'amorçage, l'idée après c'est de lâcher cette discrimination positive, si tant est que c'en soit une, pour que ça devienne banal aussi que un contrat doctoral soit alloué à un étudiant qui soit en situation de handicap, qu'il ait les yeux bleus, verts ou qu'il aime le rouge, on s'en fiche complètement, c'est un étudiant qui a des capacités. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Un étudiant en situation de handicap, ce que forment les universités, ce que forment nos universités régionales, ce sont d'abord des étudiants qui ont au terme de leurs études les mêmes compétences ou les mêmes incompétences, là aussi chacun jugera, les mêmes diplômes qu'un étudiant valide, avec peut-être des besoins spécifiques, mais on est vraiment sur la même chose. C'est vraiment ça, je pense, qui convient de mettre au jour.
Les besoins spécifiques, notamment en termes de temps d'études, un doctorant qui peut justement faire sa thèse en plus de 3 ans.
Alors, ces relais handicap, on les trouve sur toutes les universités?
Oui, on en a dans toutes les universités. Donc l'an dernier a été menée une enquête un petit peu fine au niveau là aussi ministériel. Toutes les universités qui ont répondu à cette enquête, il y a à peu près 90% de réponses, ont déclaré disposer désormais d'une structure handicap, avec en moyenne par université à peu près l'équivalent de 2 équivalents temps plein, exclusivement consacrés à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Donc là, on a vraiment du personnel qui est mis en place.
Bien, je vous remercie pour toutes ces précisions. Très bonne journée.
Merci.
Merci.
C'était Université et Handicap, une émission de René Lavergne.